Ce balado est propulsé par le Scandinave Spa Mont-Tremblant, le spa thermal des aventuriers, fier partenaire exclusif de Miracle, la grande retraite. Salut, c'est Madeleine, je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode du balado Miracle, là où j'essaie de créer des petits miracles en m'intéressant au sujet bien-être qui te touche, qui nous touche. Et pour ce faire, je m'entretiens avec des personnes que je trouve absolument inspirantes, extraordinaires. Et cette semaine, on va parler d'Ayurveda avec la grande spécialiste de l'Ayurveda au Québec, Christine Saint-Laurent. L'Ayurveda, c'est une médecine, une sagesse ancestrale qui nous invite à nous reconnecter autant que faire se peut avec la nature et ses cycles, qui nous rappelle qu'on fait partie de la nature et que quand on essaie de s'en éloigner, de s'en extirper, quand on tombe dans le côté béton de la chose, le côté performant de la chose, quand on se déconnecte de notre nature profonde et de la nature en général, ben on vit plus difficilement. On va donc parler de self-love par l'Ayurveda, donc d'amour de soi par l'Ayurveda. On va toucher à tout ce qui a de près ou de loin un lien avec notre bien-être par les lunettes de l'Ayurveda, avec Christine Saint-Laurent. Ah Christine, que je suis contente de te parler aujourd'hui. Merci d'être là.
Merci de m'avoir invitée Madeleine, vraiment.
On est au printemps. C'est une belle saison pour l'Ayurveda. Ben, toutes les saisons sont belles pour l'Ayurveda, mais dans le printemps, il y a quelque chose de très frais. On renaît, c'est le renouveau. On sort de notre période plus kapha, plus hivernale. Parle-moi de ce que c'est l'Ayurveda pour toi. Comment peut-être c'est arrivé dans ta vie, puis ce que ça fait pour toi dans ta vie. Et ensuite, on va pouvoir indiquer aux gens comment l'appliquer dans la leur.
Ouais. Et c'est une sagesse extrêmement puissante, hein. Puis plus on la découvre, plus moi je la découvre, puis j'apprends encore, hein. Même si j'ai écrit 2 livres, près de 1000 pages, référencées, des années de recherche, j'en découvre encore. Alors, c'est une médecine qui va vraiment... En fait, c'est l'ancêtre de la santé globale, la médecine intégrative. C'est vraiment un amalgame de la phytothérapie, la santé par les plantes, de la méditation, du yoga, de l'art de vivre qui nous ramène les deux pieds dans la nature, dans les éléments. C'est l'humain a eu tendance à se dénaturaliser, de bâtir des grandes cités, des villes avec du béton, des centres d'achat, où est-ce que dès qu'on entre, on a juste le goût de mourir quasiment, parce que il y a plus d'énergie. Dans mon énergie, moi, si je rentre dans un centre d'achat de béton, je sors de là fatigué. Là, tu réalises qu'on est ailleurs, on s'est vraiment déconnecté massivement. Et il faut qu'on se le rappelle, parce que les choix qu'on doit faire actuellement, il faut qu'ils soient aussi garants de protection d'une nature. Donc, c'est une médecine qui nous rappelle qu'on a les deux pieds ancrés comme une plante sur la terre, qu'on est dépendant des éléments, qu'on est aussi influencé par les saisons. Il y en a juste 3, il n'y en a pas 4 dans la perspective de l'Ayurveda. On est lié par des cycles, que ces cycles-là sont internes, sont externes, et que tout ça fait en sorte qu'on devient équilibré ou qu'on se déséquilibre. Et Ayurveda, pour celles qui découvrent, et puis je vous le dis, vous allez tomber en amour, là, c'est sûr que dès qu'on ouvre la porte de ça, on peut pas faire autrement, faire comme « oh », puis on pleure, il y en a qui pleurent, qui font comme « mon Dieu, on dirait que mon âme avait tellement envie d'entendre ça ». Donc, Ayurveda veut dire « sagesse ». Sagesse de la vie ou art, moi je le traduis par art de vivre ou sagesse ancestrale, donc c'est vraiment, et ça provient de l'Asie, du continent asiatique, vieux de 5000 ans, à peu près, comme la médecine chinoise. Et il faut se rappeler que dans ce temps-là, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas, donc ça s'étendait de l'Inde. Tu sais, on dit souvent que l'Ayurveda vient de l'Inde, non, parce que c'est beaucoup plus large que ça. Vietnam, Pakistan, c'était un grand continent où les plantes et où l'art de vivre et où la médecine qui est super sage était là. Et il y a eu probablement une différence entre la médecine chinoise et la médecine ayurvédique, mais il y a des grandes similarités. Tout ça basé dans la nature qui nous rappelle qu'on est lié dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit, dans tout ça, puis qu'on est vraiment un tout, beaucoup plus qu'un corps physique avec un cerveau qui marche puis qui va pour travailler, puis avoir de l'argent pour prendre sa retraite, puis finir avec un Winnebago. Je sais pas. T'sais, je pense qu'on est vraiment... on est plus que ça. On est beaucoup plus que ça. Oui. Avec lui-même, le Winnebago, c'est parfait pour des vacances. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment plus large que ça. Et c'est l'histoire d'une vie qui est de reconnecter avec cette nature, cette essence plus profonde-là.
Mmh. Ah, t'as tellement raison. On s'est urbanisé, on s'est déconnecté de la nature. On vit beaucoup, beaucoup de stress, de l'anxiété. On essaie de performer. Puis tu sais, quand on se retrouve en nature, en forêt, on se dit « Ah, oh, ça me fait tellement du bien! » Puis, mais on repart, tu sais. Oui. C'est comme si on a oublié qu'on est aussi... on fait vraiment partie de la nature. On est un animal. On fait partie de cette nature-là, puis on est comme déraciné pour mettre, comme tu dis, dans le béton, puis on se sent pas bien. Quand on recommence à faire « Attends un peu, oui, je suis fatiguée en novembre, mais c'est parce qu'il y a moins de lumière, c'est connecté à la nature. Oui, je sens un renouveau au printemps, c'est en lien avec la nature, mais on dirait qu'on a oublié ça. »
Oui. Et c'est important de se le rappeler parce que même dans nos cycles de vie, c'est lié avec les éléments puis la nature. Oui. Aussi. On vient au monde, on vient avec des éléments qui sont plus présents. Un bébé, c'est joufflu, ça a de l'eau et de la terre. Je veux dire, moi, une flexibilité là, qui... Alors, ils se lèvent le matin, ils ne sont pas fripés, eux autres, hein? 1 an, 2 ans, 3 ans, ça, tout, hein? des belles grosses joues, des belles grosses cuisses. Ben, il y a beaucoup d'eau et de terre qui protègent le corps pour que si on tombe, ben, on puisse se protéger. Après ça, on arrive dans le temps de vie où il y a plus de feu, on est dans l'action, dans la compétition, on se détermine, on tombe en amour, on se sépare, on apprend une sexualité. On est dans un temps de vie de feu où on est en transformation, où on prend les premiers éléments pour les transforme. Puis après ça, on arrive à 40-50, ce qui est mon cas maintenant. J'arrive à 50 ans, puis je le vois, les choix sont plus les mêmes, tu n'as plus le goût de performer autant, tu te compares presque plus, puis tu souhaites que tu ne veux plus te comparer. Dans le fond, ça change, et on est en constant changement, puis de ne pas comprendre ça vient nous amener à nous débalancer. Ça nous amène à perdre pied, à perdre le nord, à perdre notre étoile du nord. On sait plus, on sert à quoi, on s'en va où, parce qu'on n'a pas compris qu'on est vraiment lié à cette nature-là, puis que c'est dans nos cycles de vie même, et dans nos cycles menstruels, la femme aussi, tout ça, c'est tout ensemble. C'est beau. Mais moi, j'étais infirmière pendant tellement longtemps, j'ai plus de 35 ans d'expérience dans le milieu de la, entre guillemets, santé, mais depuis ce temps-là, je suis devenue herboriste, je suis dans le milieu de l'Ayurveda, dans la santé naturelle, en santé holistique. Mais comme infirmière, on ne l'apprenait pas, ça. On ne l'apprenait plus, ça. Et au départ, c'était vraiment la racine de soigner les corps et les âmes avec les premières infirmières qui sont arrivées ici, avec la nature, avec les plantes, et à comprendre qu'on fait partie de la nature aussi. C'est intéressant.
La base de l'Ayurveda, l'Ayurveda, en fait, est basée sur les doshas. Peux-tu nous parler de ça pour les gens qui connaîtraient peut-être pas? Parce que c'est vrai que quand on commence à comprendre un peu plus notre constitution, ben, on peut faire certains choix, notamment dans l'alimentation, par exemple.
Oui, et c'est sûr que dans l'Ayurveda, c'est souvent lié aux doshas. C'est notre signature. C'est un petit peu comme la Belle au bois dormant. Tu sais, les temps passaient au-dessus du berceau, puis il faisait un petit peu de poussière d'étoiles, puis il disait, ah, toi, tu vas être jolie, tu vas être ceci, tu vas être cela. Mais l'univers a fait ça avec nous de façon différente. Il nous a mis un peu plus d'eau et de terre, ou un peu plus de vent, un peu plus d'espace. Et cette signature unique, c'est les doshas. Ça s'écrit D-O-S-H-A, qui est vraiment notre signature. Toi, Madeleine, tu as du feu. Tu es vraiment une femme d'action, tu es une leader, tu vas mettre des choses de l'avant, tu as beaucoup de feu. Même chose pour moi, il y a un côté feu, il y a vraiment un côté très, très fort d'avancer puis de changer les choses. Et quelqu'un qui va avoir plus de vent va être plus créatif, va être plus porté à peindre. Et toute cette signature-là qu'on porte vient déterminer la façon qu'on s'exprime, la façon qu'on réagit. Les choix de vie de couple, les choix de conjoint, la façon qu'on élève nos enfants, la façon qu'on tolère le café ou le vin ou pas pantoute, tout ça va venir nous influencer. Cette signature-là, elle doit être comprise parce que si on la comprend pas, puis c'est ça que je trouve très intéressant, ça fait que déjà 15 ans que je suis dans le milieu de l'Ayurveda couplé à l'herboristerie et au milieu de santé naturelle et santé conventionnelle. Il n'y a aucune médecine qui le détermine avec autant de sagesse et de précision qu'on est vraiment l'ultime. On est tous les éléments. En fait, on est les de la terre à l'eau, au feu, à l'air et à l'espace. Les cinq éléments nous sont en nous aussi, pareil comme à l'extérieur de nous. Et ils influencent notre façon de digérer, la façon qu'on digère la salade, la façon qu'on a les mains froides, les pieds froids, la peau sèche, les cheveux secs, le stress, l'anxiété, l'insomnie. Tout ça va être régi par ces signatures-là. Ça, c'est intéressant.
Et ça change hein, dans la vie. Moi, j'étais une 100% pita, donc très, très feu, dans la vingtaine, la trentaine. Et là, je le sens. Je le sens que premièrement, j'ai beaucoup plus de vent. J'ai beaucoup plus de vata. Je suis plus... Puis, j'ai envie, comme tu dis, de laisser tomber, de me calmer, de mettre du kapha là-dedans, donc de ralentir, d'être moins justement dans la performance, dans la compétition, ça m'intéresse plus du tout. Tu sais, je sens aussi donc qu'avec les rythmes de la vie, notre dosha change, hein, réharmonise, s'équilibre de façon différente.
Ben en fait, il change. Quand on vient au monde, je parlais tantôt des enfants qui peuvent mettre leur pied en arrière de la tête, puis qui sont joufflus, puis qu'ils se lèvent le matin, tu te regardes dans le miroir. Moi, je l'ai eu en fin de semaine, j'avais mes deux petits-fils, 2 ans, 3 ans, ils sont beaux, mais ça n'a pas de bon sens. Ils se lèvent, ils sont pas fripés. Et tu regardes en dessous de ton cou, tu fais comme, ouais, il y a un petit peu moins d'eau et de terre, justement, parce que notre première portion de vie est dans le kapha, dans l'eau et la terre, de principe de protection pour tout le système nerveux puisse se développer au niveau cérébral, au niveau du corps. C'est vraiment intéressant. Après ça, on arrive dans un temps de vie de pita, c'est entre, disons, 20 ans et 40. Là, on est dans l'action, là, on est dans la transformation, là, on est plus dans se définir, s'identifier, se créer une identité. Moi, si j'avais su à l'adolescence, tout ce que je sais là, mon Dieu, mon adolescence aurait été tellement plus le fun, Seigneur. Là, après ça, on arrive à 40 ans, mais là, on arrive dans un temps vata plus naturel. Fait que c'est sûr que jusqu'à la fin de notre vie, on est dans un temps vata. Donc, on est moins dans l'action, on raccourcit les listes des choses à faire, on se donne le temps de créer plus, de connecter avec notre essence. Parce qu'ultimement, l'âme qui vient s'incarner ici, puis de la perspective de l'Ayurveda, c'est ça, l'âme qui vient ici, elle le fait pour un court laps de temps. C'est pas beaucoup 100 ans sur l'histoire de l'humanité, là. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis quand est-ce qu'on reconnecte ou qu'on se donne le droit de reconnecter avec notre essence profonde? Et c'est là, hein, parce que ultimement, toute notre vie, on la prépare notre mort. Moi, j'aime ça avec mes chums de filles, on se dit ça, les psychologues, elle dit, tu sais, dans le fond, Christine, toute notre vie, on passe à préparer notre mort pour vrai, parce qu'ultimement, on va décoller comme tout le monde, on va s'en aller nous autres aussi. Fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis comment on peut savourer pleinement nos différences? Puis nos cycles, puis comment on peut arrêter de suivre des modes. Moi, c'est surtout ça que j'aime, puis c'est aussi la signature de ce que je partage, c'est qu'on est beaucoup plus que des modes. Tu sais, il y a keto en ce moment, puis avant ça, il y avait d'autres choses, puis il va y avoir un autre mode après, mais on n'est pas des modes. On a une signature unique ancestrale qui est là, et c'est elle qu'on doit, et selon l'Ayurveda, qu'on doit suivre. Notre signature, blueprint en anglais.
Oui, ouais. Notre signature profonde. Ouais. Dans l'Ayurveda, il y a toute la portion alimentation aussi qui est très, très importante. Toi, est-ce que tu as tendance à suivre ton dosha par ton alimentation, donc adapter ton alimentation à ton dosha? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Parce que physiquement, on peut presque deviner hein, qui est kapha, qui est vata, qui est pitta. Même physiquement, ça peut paraître. Et l'Ayurveda nous conseille d'adapter notre alimentation à notre, un, aux saisons, deux, à notre dosha, notre type. Toi, t'en penses quoi de ça au niveau de l'alimentation? Qu'est-ce que tu nous conseilles?
C'est très saisonnier, je pense, parce que ça peut devenir compliqué. Quand on regarde les listes de prendre, qu'est-ce qu'il faut prioriser, puis qu'est-ce qu'il faut moins prendre, je trouve que ça peut devenir un peu... difficile.
Contraignant,
tu sais, si mon chum est kapha ou puis un autre dosha, puis mes deux enfants, là, tu te dis, OK, prends
pas c'est ça.
Moi, je décroche dans ce temps-là parce que ça devient trop compliqué. Sauf que, et première chose. Deuxième chose, on n'est pas toujours en débalancement non plus. Si on va prendre, mettons, deux exemples de grands débalancements. Un, vata, petit corps physique et frêle, pas beaucoup de protection. Prends un café, il ressent le café pendant des heures. Prends un demi-verre de vin, déjà ressent l'effet de l'alcool. Pas capable de prendre deux verres de vin, il est sous. Parce que le corps ne peut pas tolérer ça parce qu'il n'y a pas de protection. Ça, c'est exemple numéro un pour Vata. Exemple numéro deux, Pitta, où il y a vraiment déjà beaucoup de feu, beaucoup de chaleur, et où il y a un corps moyen. Et en même temps, si on ajoute, donc, dans ces deux exemples-là, pour Pitta, des épices, de la cayenne, un 35 degrés, du yoga chaud, puis on prend l'avion là-dedans, bien là, on va venir se débalancer. Puis tout ce qui est plus piquant comme nourriture va venir, c'est clair, va venir débalancer. Mais on n'est pas toujours dans ces extrêmes-là. Mm. C'est ce que j'aime qu'on mette en perspective. La première personne, petite, frêle, minuscule, délicate, qui n'a pas beaucoup de protection, en plein hiver, dans un temps où il fait froid, il fait sec, elle est froide, elle est sec, elle a toujours les mains froides, les mains sèches, elle a la peau sèche, puis là, elle se fait dire, ben mange cru, parce que c'est bon pour la santé, manger cru. Mange la salade. La salade, ça marche pas, le ventre gonfle, il y a des ballonnements, puis là, je me sens pas bien avec la salade. Personnellement, moi, j'ai un côté vata, j'ai de la misère à tolérer la salade. Il faut qu'il fasse vraiment chaud, faut que je trippe à manger une salade. Sinon, ça passe pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Tu vois, c'est des petits ajustements qu'on vient faire. Par exemple, on va venir réchauffer un peu la salade, les épinards, on va ajouter de l'huile, on va mettre des choses, des épices pour venir réchauffer. Et dans le cas de notre deuxième Pitta, qui a le feu qui a les dents dans le front tellement qu'il est allumé, c'est vraiment. Alors, lui, on va choisir des plantes ou des choses qui sont plus fraîches, qui vont venir vraiment contrebalancer l'effet du feu. C'est pas le temps de manger du mexicain 4 jours par semaine quand on est dans cet état-là, tu sais. Donc, moi, je trouve que c'est comme le gros bon sens qui fait que on se maintient dans un niveau acceptable d'équilibre ou bien plus que ça au centre, mais on ne se complique pas trop la tête parce que si ça devient compliqué, on ne voudra plus, on ne le fera plus. Par exemple, on prend notre exemple, ménopause, 50 ans, Pitta, avec un livre à écrire avec des deadlines hyper serrés, donc on ajoute le stress, on ajoute le vent sur le feu, irritable, irrité, on va commencer à faire un peu d'eczéma, de psoriasis, puis là on va décider de prendre un petit verre de vin le soir pour se calmer le pompon, mais là ça va trigger, ça va stimuler les bouffées de chaleur pendant la nuit, on va se réveiller la nuit, les dents vont être remplis d'eau parce que le feu n'aura pas été contrôlé durant la journée. Ça, c'est des beaux. Puis là, ça ne veut pas dire qu'on va toujours être comme ça. C'est juste que de comprendre notre nature et où on est, dans quelle saison on est. C'est sûr que si on est dans l'été, bien, il y a plus de chances que ça vienne débalancer le feu. Si on est dans la saison de kapha printanier, justement, bien là, c'est plus lourd, c'est plus froid, c'est plus dense. Donc, on va venir ajuster notre heure de vie, notre alimentation aussi par rapport à ça.
Si vous voulez tout savoir, là, si ça vous intéresse, là, ce dont on parle, je vous conseille vraiment les livres de Christine. Hein. Tu as fait des livres absolument incroyables, comme tu le dis, avec beaucoup, beaucoup de références, de recherches. Ça a dû être... c'est un travail de moine que tu as fait. Mmh. Et on peut donc en apprendre, tout apprendre sur l'Ayurveda là, par tes livres. Donc, je vous les conseille vraiment. Puis d'ailleurs, le deuxième, tu es allé encore plus dans le côté féminité de l'Ayurveda. Pourquoi tu as choisi d'aller vers ça pour ton deuxième livre?
Ça a été un accouchement tellement difficile en plus parce que la féminité, c'est un sujet qui est tellement large. Puis qui on est? Si moi, je me disais, j'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur en disant, je suis qui moi pour écrire sur l'histoire de la femme? Il y a tellement de culture, d'histoire, de... Et là, tu commences par où puis tu finis par où? Ça a été, sérieusement, ça a été... J'aurais pas pensé que ça aurait été aussi douloureux, mais... Les résultats, quand même, j'ai réussi à ramener des grands concepts ayurvédiques, sagesse ancestrale, contemporaine, hormonale avec l'Ayurveda pour nous amener tranquillement à comprendre que comme femme, on porte des cycles. Et moi, comme je disais tantôt, si j'avais appris ça à l'adolescence, mon Dieu! Et j'ai été aussi, je l'ai pas dit souvent, je l'ai jamais dit publiquement nécessairement, mais j'étais abusée sexuellement quand j'étais jeune. Ça le fait que ma sexualité a complètement pris le bord. J'ai pas compris ce qui se passait dans mon corps. J'ai pas compris c'était quoi. Et cet exercice-là d'aller m'ancrer, puis on est plusieurs femmes. On porte l'histoire de nos grands-mères, on porte le tabou de la sexualité. On a toutes été abusées, soit physiquement, soit mentalement, soit spirituellement. Bref, on a toutes un peu ce... Et moi, je voulais que ça rende service. que ça rende service aux ados, que ça rende service aux femmes qui l'ont été, parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est pur, dans le retour à la terre, de comprendre nos cycles, de comprendre à quel point c'est sacré, et de savoir aussi que l'humain sur la terre, grâce à la femme, c'est le véhicule. Si la femme n'est pas là, il n'y a pas d'humanité sur la terre. Fait qu'il y a comme tout un... Et puis là, toute l'approche en plus spirituel dans le sens où l'âme, tu sais, la connexion avec notre nature profondément féminine, intuitive, créatrice de vie, c'est puissant. On est bien plus que de 28 jours, puis de savoir oui. qu'à 14 ans, il faut que tu prennes la pilule anticonceptionnelle, puis tu comprends rien de ton cycle menstruel. Moi, j'ai pris jusqu'à 14 sortes de pilules anticonceptionnelles. Il me donnait pour réguler mon cycle. Et la journée, puis ce que ça a pris pour que ça, mon cycle se régule, c'est que je déménage en campagne à l'âge de 35 ans. Que là, j'avais plus de lumière artificielle. Puis là, j'avais plus. Là, j'ai dit, mon Dieu, je suis en même temps que la pleine lune. Bing!
Voilà.
C'est tout. Fait que tout ça a amené à écrire un livre que je voulais vraiment qu'il soit puissant pour qu'on se réapproprie notre pouvoir de femme.
Quand tu vas venir à Miracle, la grande retraite au début du mois de juin, tu vas nous offrir un atelier sur le self-love et l'Ayurveda. Hein, parce que oui, l'Ayurveda, c'est vraiment prendre soin de soi avec tellement de douceur, de beauté, d'amour, beaucoup de self-love. D'ailleurs, dans les pratiques de self-love, je sais que tu es très forte sur tout ce qui est automassage puis les huiles. Toi, tu es derrière l'entreprise Inspirata. Tu as été dans les premières, sinon la première au Québec à nous offrir des huiles faites à partir de plantes puis aussi en lien avec les différents doshas. Ouais. Donc, parle-nous des bienfaits de l'automassage et comment on peut se self-lover par les huiles et l'automassage puis combien c'est important.
Puis la première, absolument, parce que ça n'existait pas du tout quand je l'ai commencé. Hein? Ah non, c'est clair. Et je vais le dire aussi, la façon que je fais les huiles, j'ai une passion folle pour la façon que la nature traite les plantes. Et ça, quand on parle d'Ayurveda, ça devient une mode. Là, tout le monde dit « Ah, moi aussi, je vais en faire. » Ça devient... Il faut faire attention parce que la nature, on ne peut pas la dénaturer. Pour moi, une huile, c'est une huile qui est complète avec les plantes entières. Ça m'a pris des années à développer. Une façon d'envoyer les plantes à la plage pour qu'elles puissent prendre le temps de se relaxer, relâcher ce qu'elles ont besoin, ce qui fait que l'énergie de la plante est préservée. Et moi, ça, j'ai toujours eu ça dans le cœur. Donc, Inspirata, c'était il y a 12 ans où j'ai vraiment créé des huiles parce que dans l'Ayurveda, les huiles font partie du patrimoine thérapeutique ancestral. Les bébés viennent au monde, on suit. Là, je te parle en même temps, tu vois, juste avant que je sache que tu me parlais des huiles, j'ai ramassé l'huile sur la table, puis là, je me mets à le sniffer, puis là le cœur fait « wow, ça sent donc bien bon », parce qu'on vient envelopper nos sens, on vient envelopper l'odorat, on vient s'envelopper d'amour, et l'huile veut dire en sanskrit, la langue ancestrale, une des langues les plus ancestrales, veut dire, ça s'appelle sneha, et sneha veut dire amour. Là,
il y en a de l'amour dans tes huiles.
Il y a de l'amour là-dedans. Puis quand on prend le temps de venir huiler, on vient prendre le temps de venir lubrifier, activer, envelopper. On vient vraiment prendre le temps de se masser les seins, se masser le ventre. Quand on a des douleurs menstruelles, on va faire le lien. Moi, je n'avais jamais compris qu'un massage, automassage du ventre avec des huiles, puis mettre de l'huile dans le nombril, pouvait venir tellement détendre le bas du ventre, puis réduire les douleurs et les tensions menstruelles. C'est fou! Donc, l'Ayurveda nous le dit haut et fort, si tu veux maintenir une flexibilité dans la vie, hein, de développer une résilience, si tu veux prendre soin de toi, donne-toi de l'amour, puis donne-toi de l'espace pour que ton éponge, où est-ce que tu mets ton pied à terre, quand tu lèves le pied sur une éponge, ton éponge puisse revenir à sa nature. Nous, on a tendance en Occident à avoir le pied dans le fond, puis l'éponge, quand on enlève le pied, là, il est encore comme une galette de crêpes, puis l'amour qu'on se donne va nous permettre d'aller rechercher cet espace-là, cette vitalité-là, et quand le corps a l'espace pour être ce qu'il a besoin d'être, bien, il se régénère naturellement. Et les huiles font partie de ça aussi. Les huiles font partie de la nature humaine. Notre peau est faite d'huile. On vient nourrir, lubrifier, s'envelopper. Le self-love commence vraiment par la bianga, qui est l'automassage. Puis en plus, on relâche l'ocytocine, ocytocine qui est l'hormone du bonheur, on vient travailler, c'est la contrebalance du stress, on vient se relaxer. Donc, des rituels mis en place pour s'aimer assez pour faire ça, ben, ça fait partie de ce que l'Ayurveda nous amène.
Il y a un truc que tu avais donné déjà, que moi j'ai continué à faire, puis c'est l'automassage au niveau des aisselles. Tu sais, oui, tu parles des seins, mais dans les aisselles aussi autour, où il y a les glandes. Ça, c'est quelque chose que je fais avec tes huiles qui me fait... J'ai l'impression de permettre à ce qu'il y a à bouger, de se transporter dans mon corps,
décongestionner le système lymphatique au niveau des seins. On le fait jamais assez. Puis je me prends tout le temps les seins devant une scène de 500 personnes. Je fais comme, ben là, venez masser parce que... Parce que c'est mal aimé, on s'en occupe pas, on se met un soutien-gorge, après ça on prend notre douche, on se lave en dessous des bras, puis c'est fini. Puis si on est célibataire, ben les seins restent tout seuls, puis ils ont jamais d'attention. Fait que là, je dis souvent, reprenez possession de vos seins, c'est tellement important, c'est notre féminité, mais c'est aussi toute la circulation lymphatique, et on peut faire beaucoup de prévention de stagnation, d'inflammation et de cancer du sein en automassant. En activant la circulation et l'équilibre naturel du corps et la propension naturelle du corps à se rééquilibrer.
Ouais. Il y a ton huile détripante aussi pour le visage. Je veux juste dire aux gens que s'ils vont sur ton site, qu'ils mettent ça dans leur panier, huile détripante pour le visage, ça fait plusieurs années que je l'utilise, vraiment longtemps. Elle est extraordinaire, ça sent tellement.
Alors, là, tu vois, c'est une nouvelle étiquette et... là, dans ce lot-là, actuellement, la fleur d'oranger était extrêmement présente. Puis, tu sais, c'est drôle parce que c'est la nature encore une fois. Les gens écrivent, ils disent « Ah, ça sent pas pareil comme le premier. » Quand on laisse la nature faire la job, c'est pas des extraits de laboratoire, c'est pas constant, c'est pas des fragrances. Moi, j'aime ça beaucoup, jouer là-dedans, parce que c'est naturel. On est tellement habitué à avoir des bananes jaunes qui sont toutes pareilles, des tomates rouges qui sont toutes pareilles. Et on s'empêche de vivre tellement de choses parce que, justement, c'est créé de façon industrielle. Mes huiles, ce ne sera pas ça. Ça va changer de l'eau en l'eau parce que la plante va venir donner ce qu'elle a à donner là-dedans. Et moi, ça, je trouve que c'est d'aimer la nature. C'est self-lover la nature aussi que de faire ça.
Dans le self-love, je veux parler du sommeil avec toi parce que ça part beaucoup de bien dormir, bien fonctionner, tu sais. Qu'est-ce que l'Ayurveda nous enseigne sur le sommeil ou quels sont les trucs ou les rituels qu'on peut utiliser pour avoir un meilleur sommeil?
Ah, c'est important parce qu'on sait que si on dort pas bien ou si on dort moins bien ou si on se réveille, puis on se réveille le matin avec un manque de sommeil ou un sommeil agité, on n'aura pas les mêmes lunettes pour faire face aux défis de la vie. Mm-hmm. On sait combien d'invitations on reçoit par jour pour glisser vers ce qui va moins bien, ce qui peut moins bien aller. Un sommeil, ça joue un rôle clé et en plus, on n'est pas, d'ailleurs dans mon deuxième livre, je dis l'humain n'est pas un hibou. Un hibou n'est pas un humain, puis c'est signé Mère Nature. On n'est pas un hibou, on n'est pas fait pour être là. On est fait pour se coucher en même temps que le soleil et on est fait pour se lever en même temps. Ça, c'est notre nature humaine profonde. Maintenant, dans le monde dans lequel on vit, ça vient bousiller l'ensemble des trucs avec les écrans, avec le stress, avec le cortisol, avec le pied dans le tapis, justement, avec l'éponge qui est écrasée en dessous du pied. Tout ça fait que ça l'influence. Donc, c'est pas juste de se coucher. On vit dans un stress en surstimulation surrénale avec du cortisol, puis on s'attend à dormir dans les bras de Morphée dès qu'on met la couverture en dessous du cou. Donc, il y a vraiment des rituels à mettre en place. L'automassage en fait partie. L'automassage, c'est un des premiers trucs. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de cytocine tantôt. Hein? C'est une hormone que l'on produit nous-mêmes. S'il y avait une compagnie X qui pouvait mettre dans une ampoule l'ocytocine, tout le monde courrait aller le chercher. Mais en même temps, tant mieux, ils ne peuvent pas le faire parce qu'on la génère naturellement. Mm-hmm. Comment? En se donnant des câlins, en se massant les seins, en se massant le ventre. et en s'automassant. Et ça, c'est un allié incroyable parce que c'est la clé qui va contrebalancer le cortisol. Et dans notre équilibre hormonal, puis dans mon livre « Féminité Ayurveda », j'en parle, c'est que si le corps est toujours occupé à faire du cortisol parce qu'il est en état de survie tout le temps, dans stress, dans surstimulation et tout ça, bien tout le reste, la cascade physiologique de tous les hormones qu'on a besoin pour nous maintenir en équilibre, va être mis de côté. Pourquoi? Parce que sa job, c'est de nous garder en vie. Fait qu'il va aller prioriser l'hormone de survie. Donc, le sommeil, il y a des trucs pour préparation au sommeil le soir, il y a des trucs durant la journée, il y a aussi une observation, reculer puis observer sa vie, à quel rythme on la roule, puis on s'attend à quoi quand on dort. Et quand on arrive à 40-50 ans, c'est pas qu'on vieillit puis qu'on tombe malade, c'est que le corps ne peut plus maintenir un rythme qui est pas naturel comme on lui fait subir depuis 20-30 ans. Et donc, il y a une grande sagesse ayurvédique, c'est observe ta vie, observe ce que tu lui mets ou ce que tu fais subir, en guillemets, épure et rechoisie pour finalement arriver et te permettre de te déposer. Méditation fait partie des rituels incroyables, les pranayamas. La respiration fait partie de ça aussi, les huiles, l'alimentation, la musique, les sons, les sens, tout ça entre en ligne de compte.
Merci tellement, Christine. C'est vraiment inspirant. J'ai hâte de te revoir à Tremblant au début de l'été. Puis j'invite vraiment les gens à venir faire ton atelier. C'est extraordinaire. Puis j'espère que tu vas nous apporter des huiles là, qu'on va pouvoir se procurer, sentir, expérimenter.
Oui, absolument. Je me disais, il faut que je les fasse sentir. Il faut qu'on va le faire passer dans la salle. On va venir en sentir et toucher vraiment. Oui, absolument.
Ah, merci beaucoup, tu es très, très inspirante. Ça me calme de parler, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Merci pour ton temps.
Merci à toi.
Et à vous tous, chères auditrices, auditeurs, je vous souhaite une super belle semaine. À très bientôt. Bye bye.
T'as aimé cet épisode du balado? Eh bien, joins-toi à moi, joins-toi à nous lors de l'événement bien-être numéro 1 au Québec, Miracle, la grande retraite. Ça se passe du 31 mai au 2 juin prochain et tu vas pouvoir rencontrer les invités experts les plus intéressants du moment qui vont aborder tous les sujets que tu aimes. Yoga et méditation, auto-hypnose, alimentation et santé mentale, tantra, hormones au féminin, psychologie, reiki, breathwork, ayurveda, relations de couple et tellement plus. Pour tout savoir, c'est leretraitemiracle.com. Je t'attends!